Bonjour, je voudrais vous lire un extrait d'un communiqué de presse RESF Paris du 20 mars. Lundi, malgré l'intervention de parents présents et celle d'enseignants, des policiers ont arrêté, fouillé et interrogé une femme venue chercher une petite fille à la sortie de l'école maternelle Rampal dans le 20e, prenant de haut les protestations devant les enfants et parents traumatisés. Ils l'ont ensuite emmenée, laissant la petite fille désemparée. Suivie et à nouveau interpellée par des parents de façon véhémente, les forces de l'ordre ont fini par relâcher leur proie plutôt que de provoquer une émeute. Cet incident a eu lieu lors d'une énième rafle dans le quartier de Belleville. Mardi, au même endroit, après plusieurs allers-retours dans le quartier, les policiers ont finalement assiégé un café et arrêté notamment un grand-père de deux enfants scolarisés aux écoles Pivert et 77 boulevard de Belleville. Après l'avoir maintenu dans le café pendant plus d'une heure, la police décidait d'embarquer ce grand-père juste avant la sortie d'école de 18h. Les parents d'élèves, des enseignants, les militants des RESF et les habitants du quartier tentaient d'intervenir. La réaction des policiers fut immédiate. Ils cherchaient violemment à disperser la mobilisation, n'hésitant pas à utiliser la violence physique et un peu plus tard asperger la rue de gaz lacrymogène. Les parents présents aux sorties d'école, atteints par les gaz, se réfugiaient dans l'école élémentaire. Le grand-père a finalement été emmené dans un commissariat du 2e arrondissement et quelque temps après, les rafles se poursuivaient à Goncourt et à la rotonde de Stalingrad. Souvenez-vous d'il y a 65 ans.
Aujourd'hui, j'ai entendu 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, mercredi donc. Et qui était consacré à Lucie Aubrac. Et donc, un témoignage vraiment passionnant. Mais surtout, elle a dit une chose absolument mais magnifique. Et j'avais l'impression que elle le disait à la suite d'autres choses comme ça, que ça pouvait passer inaperçu. Mais elle a dit une chose vraiment essentielle, quoi, qui m'a bouleversé. Patrice Gélinet, à un moment donné, je crois, lui dit... Oh, pour résister comme ça, il faut avoir du courage. Elle a dit, oui, pas seulement, il faut réfléchir. Elle a dit, il faut avoir le cœur ouvert. Elle a ajouté ça. Mais je trouve ça d'une beauté incroyable, quoi. Et je crois que c'est elle qui a raison. Pour résister, il faut avoir le cœur ouvert. Je vais réécouter la rediff cette nuit pour être sûr que c'est bien ça qu'elle a dit. Et ça, j'ai l'impression que nous vivons dans un monde qui est devenu incapable de comprendre ça. Et ça, ça me fait peur. C'est effrayant que de penser que peut-être cette parole-là n'est pas entendue, quoi. Voilà.
C'est une tristesse infinie qui s'empare des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur à l'annonce du départ de leur chef. Papa Nicolas, comme ils aiment à l'appeler affectueusement. Le doute s'installe, l'angoisse étreint. La peur de voir venir s'installer à sa place un salaud de gauchiste. La peur d'avoir à abandonner tout ce qu'ils avaient vu en rêve et que Papa Nicolas et le lobby des beaux joujoux électroniques leur avaient apporté. La vue, l'écoute, le talent de ne plus faire de fautes d'orthographe en tapant leur rapport, l'aptitude à penser même. Bref, la police d'éloignement. Avec Papa Nicolas, il y avait de l'action, c'était Hollywood, c'était le grand jeu vidéo de la vie. Papa Nicolas savait y faire, mieux que personne. Il couvrait les bavures, étouffait les affaires. Il s'en est passé de belles au ministère. Ils en ont monté des coups avec lui, des descentes, des ratonnades. Ils en ont raflé des sans-papiers. Ah, quel plaisir c'était pour eux de les voir courir comme des lapins pour échapper à leurs grappins, et puis hop, discrètement briser un os au père, un petit coup de matraque à la mère enceinte, une baffe au gamin, juste pour soulager. Ils les raccompagnaient vers l'avion, fiers de leur proie, conscients d'accomplir le bien en ayant serré trop fort les menottes. Papa Nicolas couvrait tout, c'était la tolérance totale.
Oui, bonjour Daniel, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui sur les pratiques de prélèvement d'organes sur des condamnés à mort en Chine. Je dois te dire que je suis très choquée de cette émission. En effet, il faut se replacer dans un contexte d'un pays qui est sorti du Moyen-Âge, voici à peu près 50 ans, Et si je suis totalement en désaccord avec ces pratiques et avec la peine de mort, bien évidemment, j'aurais été beaucoup plus intéressée par rapport à ton voyage en Chine sur des informations concernant les structures de l'État et la façon dont se fait le gouvernement en Chine dans ces régions les plus lointaines, sur les structures de la santé, sur les structures de l'éducation, sur l'ensemble des choses qui nous paraissent importantes à nous occidentaux qui avons mis 300 ans à organiser la vie sociale. Et pour marginales que soient les pratiques dont tu nous as parlé aujourd'hui, que je condamne, je le répète, il ne me semble pas néanmoins qu'il s'agisse d'un sujet déterminant par rapport à l'évolution de la société chinoise. Je sais bien que commercialiser des êtres humains est un problème choquant, mais tu sais très bien que dans tous les pays, y compris occidentaux, les ventes de sang et autres organes sont encore en pratique, même si nous n'en parlons jamais. Voilà, je voulais te le dire parce qu'il y a quelque chose qui m'embête, même si je ne suis pas pro-chinoise, même si je ne suis pas rien de tout ça, mais il me semble qu'il y avait d'autres sujets importants à aborder pour nous qui serons très intéressés l'année prochaine par les Jeux Olympiques et qui envisageons de nous rendre en Chine. Connaître la structure de la société chinoise et les prélèvements d'organes sur 10 000 prisonniers ne semble pas être le phénomène de société le plus important pour l'avenir de la Chine.
Et ben voilà des phrases costaudes. Il nous a semblé, chère auditrice, que ce n'était pas là un détail de l'histoire actuelle de la Chine. On va essayer cependant de continuer de petits voyages modestes et génial quand même à travers cet immense pays. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser au chat blanc et au chat noir. Eh bien, pour Deng Xiaoping, l'inventeur du communisme de marché, il n'y a pas de différence entre un chat blanc et un chat noir. L'important, c'est qu'il attrape les souris. Peu importe la couleur du chat, peu importe les moyens, l'important, c'est la fin, c'est-à-dire que s'enrichir est glorieux. Alors on va voir quand même que les moyens ne sont pas forcément toujours les plus délicats ni les plus caressants. Cet exemple de la vente d'organes de condamnés à mort exécutés en est un petit exemple. Aujourd'hui, on va aller dans les mines. Vous le savez, la Chine, l'énergie en Chine, c'est le charbon. La Chine est le pays qui consomme, qui produit le plus de charbon au monde et qui en consomme le plus. Moyennant quoi, selon la Banque mondiale, parmi les 10 villes les plus polluées au monde, 8 sont des villes chinoises. C'est une chose. Une autre chose est que chaque année, on déplore en Chine la mort de entre 7000 et 20000 mineurs qui meurent au travail dans les Chines, dans les mines, qu'elles soient publiques, il y en a encore, ou privées. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, salut Daniel, je te téléphonais pour réagir au scandale de la greffe d'organes des condamnés à mort en Chine. Et je voulais rajouter que certains médecins européens, notamment français, se prêtent à ce jeu-là, parce que des organes comme le foie sont particulièrement difficiles à transplanter, et certains de nos grands professeurs des universités, notamment parisiennes, vont greffer pour évidemment quelques subsides. Cela va sans dire, vont greffer ses organes en Chine. Voilà, je vais laisser un petit blanc, si ça t'intéresse comme nom, et si tu veux mener l'enquête, on prononce les noms du professeur Belghiti, par exemple. Voilà, bonne fin d'enquête, salut.
Salut, vendredi 23 mars à 20h au Magic Cinéma de Bobigny, dans le cadre de l'année Mumia Spirit, un documentaire d'Hélène Châtelain réalisé en 2001 aux États-Unis qui s'intitule « Chant public devant deux chaises électriques ». Les deux chaises électriques concernées sont celles de Sacco et Vanzetti, qui ont été condamnés en 1927 à la peine de mort, malgré le manque de preuves pour les rendre coupables. Un téléphone, le Magic Cinéma à Bobigny, 01 41 60 12 34. À bientôt de vous voir. Joyeuse journée à tous. Ciao.
Bonjour Stéphanie. Je vous conseille de bien écouter la bande-son du film « Nous sommes tous des assassins » de André Cayatte. Et vous apprendrez qu'au temps de la peine capitale en France, les yeux des exécutés étaient récupérés pour les grèves de cornet. Je pense que toutefois c'était gratuit. Voilà.
Tu prends un gros klaxon dans la face.
Bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine.
Nous, on est français.
Oh. Flance.
Flance. Flance. On vient de Flance.
Ouais, c'est ça.
Tu connais la Flance ?
Là-bas, c'est je suis France Inter.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, c'est l'entrée du puits, mais l'entrée du puits est complètement au milieu des gravats, quoi. C'est un truc complètement improvisé, alors on s'approche. La machine n'est pas grande, le puits est tout petit et tout est noir, tout est encombré. Là, il y a un bassin d'eau, des câbles qui descendent dans un trou sous terre. Un petit malheureux petit groupe électrogène fait pout pout pout. Et voilà, on est sur la mine. Trois wagons de houille, les reins. Alors on s'approche, c'est un tout petit puits. Mais alors c'est un trou qui s'enfonce dans le noir absolu, mais... Ah, voilà la cheminée qui remonte. Ça dégouline d'eau. L'ascenseur qui descend à la mine vient d'ouvrir. Mais c'est trempé. Pourquoi il y a de l'eau qui coule de partout.
Parce qu'en fait, sous le sol, il y a de l'eau, il y a des nappes d'eau.
Ah, il y a de l'eau. Et c'est pas dangereux, ça?
Ouais, c'est dangereux.
Et c'est très profond?
Un peu plus de 200 mètres.
Voilà, on a été dans le groupe électrogène et là, vraiment, on a l'impression d'être dans le Germinal. C'est-à-dire, c'est des vieux, 4 ou 5 vieux wagons complètement pourris, rouillés. Un chevalet de mine, mais qui fait 10 mètres de haut, pas plus. Un puits en briques qui descend et un petit mont de charge de rien du tout qui permet de descendre au fond de la mine. Et si on regarde à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? Un terril, deux terrils, trois terrils, quatre terrils, plus ou moins grands. Là, celui-ci, c'est vraiment le plus petit que j'ai vu. Et sur chacun d'entre eux, un petit drapeau rouge. Ah, voilà les mineurs qui se préparent. On monte dans le mont de charge. On ferme la grille. Hop, faut qu'on recule. Il s'accroche à la grille. Et voilà, le mont de charge qui descend à toute vitesse au fond. On entend les voix des mineurs qui résonnent un peu. Ça y est, on voit plus rien. Maintenant, on les entend un tout petit peu. Plus le cucu des oiseaux. Mais ils ont disparu dans les entrailles de la terre.
En Chine, une explosion dans une mine a fait 49 morts et 7 blessés.
En Chine, l'explosion d'une mine de charbon aurait fait près de 150 victimes.
Les mines chinoises sont généralement considérées comme les plus dangereuses au monde.
En Chine, au moins 203 personnes ont été tuées lors d'une explosion dans une mine.
La houille représente 70% de l'énergie consommée par le pays.
En 2004, plus de 6000 mineurs ont péri dans les mêmes circonstances.
Mais ces mineurs ignorent le danger. Pas d'assurance, bien sûr, ni de sécurité sociale, et encore moins de retraite.
Les mines de charbon tournent à plein régime dans le pays, souvent au détriment de la sécurité. La Chine dépend en effet du charbon pour son électricité.
Et rien que depuis le début de l'année, explosions, effondrements, incendies et autres accidents ont provoqué quelque 2700 morts, chiffre officiel.
De toute façon, on meurt jeune ici. Ces mines privées n'ont même pas de licence d'exploitation.
Un coup de grisou extrêmement meurtrier en Chine, plus de 200 morts.
La Chine a besoin de charbon pour alimenter son industrialisation à marche forcée et sa formidable croissance économique.
Formidable croissance économique, mais à quel prix, La Chine extrait près de 3 milliards de tonnes de charbon et en a besoin encore et encore. Cet éléphant, ce dragon monstrueux qui se développe et dont le développement semblerait ou semble parfois échapper à ses initiateurs, à ses instigateurs, a besoin de plus en plus d'énergie, avec toutes les conséquences que, évidemment, cela a sur, bien sûr, l'environnement et bien sûr sur les humains. En 1999, les mines chinoises ont été privatisées et dès lors, ça a été un déchaînement de privatisation qui a été organisé, entre guillemets, et qui a profité, en tout cas, eh bien, au cadre du parti, à la nomenclatura locale, aux petits chefs, qui ont ouvert des mines privées. Et à travers tout le pays, se sont multipliées ces mines privées. Alors aujourd'hui, on va dans une de ces mines, on va dans la province du Henan. Le Henan, c'est au cœur de la Chine, c'est la Chine profonde, c'est une accumulation de problèmes. Là, on est vraiment dans l'envers du décor. On n'est pas du côté, on n'est pas sur la côte, là où ça scintille, là où ça brille, là où vont la plupart de nos collègues qui vous présentent toujours ce fascinant bond en avant de la Chine. On va un peu dans les coulisses, un peu à l'envers, et on va d'abord à une heure environ de Pékin arriver à Zhangzhou, une grande ville, et puis là on ira à Xinmi, et puis là encore on continuera la route jusqu'à Daping, une mine d'État. C'est encore une mine d'État où le 20 octobre 2004, un coup de grisou a tué 122 mineurs et quelques autres ensuite sont morts des suites de leurs blessures. On va revenir un peu sur cette histoire, sur cette affaire, pour s'approcher un peu plus de ce chat noir et ce chat blanc. Aucune importance, on l'a dit, la proie est plus importante. Mais chat noir, chat blanc, ça fait gueule noire au cœur de la Chine. C'est jusqu'à 16h et c'est la basse division. Là, c'est un mariage. Surprise pour nous, parce que tout ce qui est mariage en Chine, c'est rouge. La mariée est en blanc, mais tout autour, les voiles, les décorations, etc. sont en rouge. Et il y a une fanfare de jeunes filles qui jouent à peu près des airs, à peu près approximativement. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'inexplicablement pour nous, il y a une petite voiture qui circule, un petit van comme ça, et à l'arrière de ce van, il y a des orgues de Staline en réduction. Et c'est grand tuyau, comme ça, une... C'est pas les orgues de Staline, c'est des pétards. Et voilà, et toute la ville est en émoi. Enfin, en émoi, ouais. Enfin bon, voilà, c'est un mariage, quoi. Mais c'est très rigolo, c'est les orgues de Staline. Voilà, un joyeux mariage ce matin-là à Zhangzhou. C'est bon enfant, c'est beau. Et alors on fait péter des pétards, évidemment, devant la somptueuse berline toute drapée de rouge, couleur du mariage. Et pourquoi les pétards? Eh bien, bien évidemment, pour chasser les mauvais esprits qui pourrait traîner dans le coin et porter malheur aux jeunes époux. Le coup des orgues de Staline, on n'a pas compris. On n'a pas su ce que c'était. Et ça fait partie de ces innombrables choses que nous n'avons pas comprises en Chine. Mais on fait de notre mieux. Donc on prend la route, je l'ai dit, pour Xinmi. Et là, en route, après le mariage, un enterrement. C'est le long de la route, c'est une cérémonie funéraire. C'est une cérémonie funéraire. Les gens ont l'air plutôt des villageois. Et il y a des deux instruments de musique étonnants. Un instrument qui a une sorte de biniou, entre le biniou et l'orgue portative. Et puis il y a deux énormes fleurs géantes, multicolores, en papier.
Au milieu, le petit, les quatre caractères, ça veut dire je vous souhaite d'être heureuse pour toujours au paradis.
Ah, je vous souhaite d'être heureuse pour toujours au paradis. D'accord. Mystérieusement, à l'entrée du reposoir, il y a deux chevaux qui ont des chevaux en papier, un violet et un blanc. Les gens portent des foulards blancs autour de la tête. Et ça, évidemment, c'est un signe de deuil. Et puis, il y a ce reposoir, c'est une grande tente qui est installée là entre les arbres, avec des inscriptions en blanc sur fond noir. Et à l'intérieur, on aperçoit des choses multicolores, des fleurs, le cercueil. Le cercueil doit être à l'intérieur. Et les gens nous entourent, hello. Tout surpris. Hello. Alors voilà, pour un enterrement, il y a une charmante chanteuse qui vient et qui chante. C'est pour, je ne sais pas ce qu'elle chante, je vous l'avoue, mais ça fait tout à fait chanteuse de variété, chanteuse de bal, qui chante pour les amis et les villageois qui assistent à cette cérémonie funéraire. Il y a ces deux musiciens qui jouent l'un d'une sorte d'orgue à bouche, l'autre d'une sorte de trompette, de cuivre en tout cas. Et puis il y a la famille coiffée de tissus blancs noués autour de la tête, avec à l'endroit du mausolée, à gauche et à droite de ce mausolée, deux chevaux de papier qui, me dit-on, permettent à l'âme du défunt de monter, de gagner le paradis où l'on souhaite, où tout le monde souhaite que l'âme du défunt y vive heureuse à jamais. On continue la route à travers le Rhénan jusqu'à la mine d'abord la ville de Xinmi, et jusqu'à ensuite, on va essayer de gagner la mine de Daping, où donc il y a eu cet accident il y a quelque temps. C'est un moyen pour nous d'essayer de comprendre comment vivent ces fameux mineurs chinois et les revendications. Et c'est pas facile. On ne peut pas dire que les journalistes soient bienvenus, surtout des journalistes comme nous qui sont extrêmement visibles avec nos longs nez. On est dans des régions où on n'a pas souvent l'habitude, l'occasion de rencontrer des étrangers. Alors c'est des régions minières, la mine, je le répète encore, le charbon est un enjeu central en Chine, les mines privées se multiplient de la façon la plus anarchique et bordélique possible, si bien qu'il n'est pas rare que ça et là, eh bien, au-dessus des mines qui ont été creusées, les maisons qui ont été construites s'écroulent tout simplement et qu'il faille eh bien, partir.
On se propose des cigarettes et réciproquement. On prend un gros klaxon dans la face. Et là, il y a toute une famille avec derrière un énorme camion. C'est quoi ces des armoires, des meubles? C'est votre maison là?
C'est notre maison, ouais.
Vous habitez là? Vous faites quoi? Vous êtes des mineurs?
Non, mineurs.
Non, on est paysans. Paysans? Mais y a pas, je vois pas de champs ici. Je vois que des terrils. Je vois que à perte de vue, on voit des cheminées, des briques, de la terre noire, de la poussière.
Yoma?
Yomeo?
Moudia.
Non, y a plus de terre. Y a plus de terre pour
cultiver. Ah, Moudia, de quoi?
Tous les terrains ont été pris, on n'a plus de terrain. Donc ça a été pris par la mine en fait. La mine a préempté tous nos terrains. Et on peut voir votre maison là? Alors on rentre, là c'est les vieux pas de porte moderne mais dans le style ancien. On rentre dans une cour intérieure. Oh là, mais c'est complètement en vrac là, déserté à moitié. Les pièces sont vidées. Là il y a la scène qui reste de cuisine avec quelques instruments agricoles. Là on voit une pioche, une pelle. Et là, c'était la chambre. Et on rentre dans une pièce complètement désertée. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est bon, c'est le... Il y a des fissures et des lézards. Non, c'est plus des lézards, là. C'est carrément des crevasses sur les murs. Les dalles au sol sont complètement disjointes. Et en fait, la maison... Votre maison, elle est en train de s'effondrer, en fait, c'est ça?
Ouais,
c'est ça. Notre maison est en train de s'effondrer.
Mais depuis quand?
Ça
fait 6 mois. Avant, ça n'avait rien. Avant, non, il n'y avait pas de problème.
La dame, elle est très remontée, là.
Ouais. C'est la mine. C'est la galerie de la mine. C'est à force de retirer le charbon sous le sol. Ça fait des trous, ça s'effondre. En dessous du sol, c'est vide. Oh là, la joie, oui, là, c'est carrément... Le toit menace de s'effondrer parce qu'il y a vraiment un écart de 4 ou 5 cm entre les murs porteurs et le plafond, quoi. Et là, vous êtes en train de déménager la maison et vous partez les... comme ça.
Oui,
oui, c'est ça, on a juste ce camion.
Et vous allez où, alors?
Pingmo.
Non, on va au village, là, au village, au village de Pingmo.
C'est loin?
C'est pas loin, je pense. Bon allez, on y va.
Allez, bon, vous partez alors. Et voilà, comment une, tout simplement, sans dire grand-chose, une famille quitte sa maison. Hop, on se claque même pas la porte là. C'est nous qui gardons la maison, Luc et moi. Et la famille s'en va avec 2 armoires, quelques chaises et la maman et les enfants et les cousins là sont installés à l'arrière de la remorque.
Là, on a vraiment une des raisons, on comprend pourquoi les gens quittent les campagnes pour aller travailler en ville, dans les usines.
Et là, pendant qu'on marche, là, on voit le trottoir et on les arrêts. C'est vrai que toute la campagne, tout alentour, je ne sais même pas comment ils font pousser quelque chose, parce que tout est noir et couvert de suie.
C'est quand même un paysage extraordinaire. Hein. Les mines, comme elles ont disparu en France, mais là c'est en activité. Derrière moi, il y a les terrils, avec le charbon qui arrive en haut du terril. Là, d'énormes cylindres de béton crasseux qui montent à 50 mètres. Oh, au moins, de haut. Ah, là-haut, il y a deux gars qui nous regardent avec leur casque. Il y a cette rampe énorme en béton crasseux, noire. Là, on aperçoit là-haut, voilà. Tout en haut du terril. Et là, tout en haut du chevalet, c'est le drapeau rouge. Ça, c'est ce qui reste de cette nostalgie au temps où la Chine était le paradis des prolétaires. N'empêche que c'est une vraie nostalgie, là, on voit, hein. Le mineur était un héros. Il n'y a pas que là, hein. Chez nous aussi, en France, hein. Le mineur, c'était un personnage important.
Les mineurs en Chine ne sont plus les héros prolétaires, les fiers ouvriers de jadis, que ce soit d'ailleurs effectivement en Russie, en Pologne, en Roumanie, partout on a vu, c'était la fin de cette figure, la fin du mineur, y compris d'ailleurs dans le Grand Nord russe. Et en Chine, même si en fait 70% de l'énergie est produite par le charbon, les mineurs, ces mineurs vivent un déclassement. La plupart n'ont pas retrouvé d'emploi stable après les licenciements massifs de 1990. C'est valable pour les mineurs, c'est valable pour tous les ouvriers de l'industrie chinoise qui jouissaient de ce qu'on appelait le bol de riz en fer. C'est-à-dire, le bol de riz en fer, ça voulait dire garantie d'emploi à vie et protection sociale, éducation, etc. Tout ça a été un peu rustique, mais enfin, tout le monde en était assuré. Alors, contre ces licenciements massifs, quelques mesures ont été prises pour limiter les effets de cette gigantesque casse sociale, mais la grande pauvreté gagne chaque jour, et il y a la pauvreté qui gagne chaque jour, ces milieux, et aussi le sentiment d'un déclassement, littéralement. Il y avait le sentiment d'appartenir à une certaine classe, et c'est ce déclassement. Alors là, on fait connaissance avec les mineurs de cette mine d'État. Je le rappelle, ils sont environ 4000 mineurs à travailler sous terre, les gueules noires.
C'est les gueules noires, là.
Ah ouais.
Ira.
Là, on se regarde vraiment. Nous, on regarde les mineurs, et les mineurs nous regardent, là. C'est souriant. On est plus surpris qu'autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a des étrangers qui viennent ici de temps en temps ?
Non.
Il n'y a jamais d'étrangers qui viennent ?
Jamais.
Et c'est bien la vie ici ?
Bamba.
Là, c'est quoi ? C'est le repos ? Vous vous reposez un peu au soleil, là ?
Ouais, on se repose, là.
À combien de profondeur vous descendez ?
Plus de 200 mètres.
200 mètres ?
Ah ah.
Regarde, on a le panier à salade qui descend, là.
Combien de temps vous travaillez ? Combien d'heures vous travaillez, au fond ?
8 heures.
8 heures ?
Ouais, il y a beaucoup de boulot.
Et est-ce que vous avez un jour de repos ? Ah, c'est 7 jours sur 7.
Les jours de repos, c'est pour les chefs.
Et combien on gagne quand on est mineur comme ça ?
1000 kwai, 1000 yuan.
100 euros. Pour 8 heures par jour, 7 jours sur 7, 100 euros. Et est-ce que vous avez des vacances ?
Peut-être qu'on n'aura que 2 jours de vacances pour le nouvel an chinois.
Ah, alors donc les congés, c'est 2 jours par an.
Ah,
ouais, c'est ça. On a 2 jours de vacances au moment de. Bon, allez, je vous laisse, il faut que j'aille.
Allez, ok. Ok. Ce qui est incroyable, c'est que la mine marche encore.
On a l'impression d'être dans une friche industrielle, une friche minière là en l'occurrence. On en a vu pas mal en Lorraine, en Roumanie, un peu partout, en Pologne, en Russie. Sauf que là, ça marche. Sauf que là, ça a l'air d'être une ruine, mais c'est pas une ruine, ça fonctionne. Et ça fonctionne même à fond.
Avec un drapeau rouge tout en haut.
Selon le South China Morning Post de Hong Kong, donc des journaux a priori plus libres, entre guillemets, que les journaux chinois, pour l'extraction d'un million de tonnes de charbon, ben, il faut compter 12 morts par accident. 12 morts par accident dans les mines privées et un mort dans les mines d'État. Donc, vous avez compris, les mines d'État sont quand même plus sûres, enfin, moins dangereuses, disons plutôt. Il y a quand même des équipements, il y a quand même certaines compétences du personnel, des mineurs, mais c'est les mines privées qui se multiplient pour arriver, je le répète encore une fois, à une estimation de 20 000 morts par an dans les mines chinoises. Les chiffres officiels sont de 6 à 7 000. Le grand problème pour la Chine, c'est que, évidemment, les chiffres qui sont produits sont donnés de façon officielle, donc évidemment, par nature, on va dire, éminemment discutable. Et c'est les seuls chiffres dont on peut disposer. Il est très, très difficile d'établir d'autres chiffres, tout simplement, dans ce pays. C'est énorme pays, quatrième puissance économique du monde, en passe de devenir peut-être la première puissance économique du monde, la première puissance du monde. Donc les chiffres, à chaque fois qu'on donne des chiffres dans cette émission, il faut les prendre avec des pincettes, sauf quand même le chiffre de 122 morts et une vingtaine de disparus le 20 octobre 2004 dans cette mine. Et c'est pourquoi nous sommes là, c'est qu'on aimerait bien revenir un petit peu sur les circonstances de ce coup de grisou et la façon dont ça a été traité, et puis surtout le silence qui s'en est suivi. Des indemnités ont été versées aux victimes, enfin aux familles des victimes, à quelques personnes qui ont été blessées, quelques mineurs qui ont été blessés également, et puis après ça a été silence, journalistes dehors, vous n'êtes pas bienvenus, certains journalistes ont été repoussés de façon très musclée, c'est pas le seul endroit d'ailleurs de Chine où les journalistes sont malvenus. Alors on a essayé d'en savoir un peu plus. Et pour en savoir un peu plus, on va rencontrer Xian Shun. Xian Shun, c'est un mineur. C'est un mineur qui en a gros sur la patate et qui a envie de se confier, ce en quoi il prend des risques. Mais les mineurs, si bien connus, certains en tout cas, sont courageux.
Yuan Xin Shun, Yuan Xiao Shun, Xiao Ming, Yuan Xiao Shun.
Ça va? Je m'appelle Yuan Xin Shun, mais tout le monde m'appelle Xiao Shun.
Et là, on est chez vous, dans cette petite maison. C'est une drôle de petite maison, hein. C'est pas le grand confort, c'est une petite ruine, quoi. Avec un coin qui fait lit, avec deux, trois posters. Il y a des bergers allemands, et puis des femmes, des très jolies femmes, blondes, grandes. C'est le rêve de notre ami. Qui est mineur. Mais est-ce que vous êtes toujours mineur?
Ah,
oui, je suis toujours mineur.
Ah, et c'est-à-dire que tu descends toujours dans le fond?
Non, je ne descends plus.
Je travaille en surface.
D'accord.
C'était plus 20 ans que je travaille comme mineur, mais j'ai travaillé au fond de la mine pendant 5 ans.
Mon père aussi.
Ah, moi aussi.
Mon grand-père, mon père, ils sont tous mineurs.
Ah, mon père est à Jiaozuo. Mon père est ici.
Mon grand-père, il a travaillé dans la mine de Jiaozuo et mon père, il travaille ici. Donc j'ai hérité la carrière de ma famille.
En Chine, l'explosion d'une mine de charbon aurait fait près de 150 victimes. L'accident s'est produit sur un site de la province du Henan, dans le centre du pays.
En 2004, il y a eu un gros accident ici. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment s'est produit l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a dit que parce que cette mine, il a 永吉丹公司搞了个无痛仪，他在这当上任当官的时候，他当第一个把手的时候
，un nouveau chef est arrivé dans la mine. Ce nouveau chef a voulu détourner les bénéfices de la mine qui normalement reviennent à l'État. Pour les détourner, il a creusé, il a construit, il a constitué sa propre mine personnelle de manière clandestine à l'intérieur de la mine d'État.
挖石太高。
En même temps, il y a beaucoup de gaz sous le sol.
设备太落后。
Les installations n'étaient pas très très bonnes là-bas.
挖石没有排放出去，就是人为不给他人这些井下的人不给他一声了，不给矿长一声，不一心嘛，不跟你干，因为当领导的都跟当领导说话是一回事。
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les mineurs en fait se rendaient bien compte que les conditions de sécurité n'étaient pas satisfaisantes à cet endroit-là de la mine et refusaient de travailler pour cette raison.
就是他不愿意得不到好处，都没有人干活。这个井下这个瓦斯，它水要及时排放的，它井下通风道改制了。
Alors un jour, il y a du gaz qui s'est accumulé dans les galeries et il fallait l'évacuer immédiatement. C'était dangereux.
在井下，它这个风道改了以后，风排不出去，它挖煤了，因为它挖出煤了，在他个人的想法中，他那煤他出来，他个人可以要。
Comme le nouveau chef avait creusé sa propre mine clandestine à l'intérieur de la mine d'État, il avait détourné les systèmes d'évacuation de gaz. Donc le problème, c'est que le gaz n'avait aucun moyen de sortir de la mine d'État.
C'est une explosion.
Et donc, il y a eu une explosion.
Donc, si je comprends bien, le patron d'une mine d'État, clandestinement, il a construit une mine privée à son compte, il a détourné les équipements de la mine d'État vers la mine privée et les équipements qu'il a détournés ont manqué à ce moment-là. C'est une fable formidable sur la privatisation clandestine et comment la privatisation tue.
结果是啥结果？风道一堵了后，这个风不出风太慢，井下温度一高，引起爆炸。
Comme le conduit d'évacuation n'était pas suffisant, le gaz s'est accumulé, ça a provoqué une explosion, et l'explosion a entraîné la mort de plus d'une centaine de mineurs. Non, au moment où il y a eu l'explosion, je ne suis pas allé voir parce que j'ai cru qu'ils avaient fait sauter la dynamite des roches dans la galerie.
Ah, tu n'avais pas compris tout de suite. Quand est-ce que tu as compris ce qui s'était passé alors ?
C'est le matin, vers 7h30 du matin, que j'ai su qu'il y avait eu une explosion dans la mine. Quand le jour s'est levé, c'était impossible. C'était tellement énorme qu'on ne pouvait pas cacher ça.
Tu avais des amis parmi les victimes ?
Ouais, il y en avait. Il y en avait que je connaissais. Ouais, j'en connaissais plusieurs.
Est-ce que les familles ont été indemnisées ?
Elles ont été indemnisées. Donc certaines familles ont été indemnisées à hauteur de 200 000 yuan.
C'est-à-dire 20 000 euros ?
C'est ça. D'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Ça dépendait un petit peu des situations.
20 000 euros, c'est le prix de la vie d'un mineur dans cette région de la Chine.
他这个按国家来说，他不会赔这么多，因为这个事故太大，活人给活人一次，死的人你再给他一次已经不行了。
La vie d'un mineur normalement elle vaut pas autant d'argent, mais comme ça s'est passé dans une mine d'État et que ça a eu beaucoup de retentissement, cette fois-ci oui, ça a été indemnisé à 200 000 yuan.
C'est-à-dire encore une fois 20 000 euros, et on trouve que c'est une très bonne indemnisation.
Le pays où la vie ne vaut pas cher. Des histoires comme celle-là, il y en a beaucoup à travers la Chine, mais il est rare que quelqu'un ait le courage, l'envie en tous les cas, de raconter les choses avec autant de détails. Notre ami mineur prend un certain nombre de risques. Il faut bien comprendre que la privatisation des mines a profité aux anciens cadres des entreprises d'État, aux petits membres locaux du parti, à la nomenclatura, d'ailleurs comme dans d'autres pays. Je pense évidemment
seulement à la Russie, mais ce qui vaut pour les mines vaut pour l'ensemble de la Chine. Le passage au libéralisme a profité à l'establishment, comme disent d'autres, à la nomenclatura, qui a capté complètement les richesses, les investissements, la finance et l'enrichissement général. Si bien que ce pays se trouve entre les mains d'une oligarchie extrêmement peu scrupuleuse. Un exemple, par exemple, on nous dit que, je répète ce chiffre, entre 7000 et 20 000 morts chaque année dans les mines chinoises, les indemnités, là, on nous dit qu'elles ont été versées. Ce n'est pas toujours le cas, mais en règle générale, ces indemnités vont de 3 000 à 10 000 euros par victime. Mais un blessé, quelqu'un qui est blessé, ça coûte plus cher. Les indemnités sont plus élevées parce que un blessé, ça continue de vivre. Alors il faut, on exige des indemnités plus conséquentes. Ce qui ne plaît pas du tout aux propriétaires des mines privées. Et là, on est dans le capitalisme le plus barbare et le plus cynique, puisque pour cette raison, les propriétaires des mines ne sont pas du tout pressés d'alerter les secours en cas d'accident. Un mort vaut moins cher qu'un blessé. Ainsi se passe la vie dans ce pays où la vie ne va pas cher. Est-ce que le patron qui est responsable, d'après toi, de cet accident, pour revenir à l'accident, a été jugé?
Pas. Non,
il n'a pas été condamné. Le patron a donné sa propre version de l'accident et il a expliqué que c'était parce que ses subordonnés ne l'avaient pas écouté. Donc il n'a pas été condamné pour ça. Quatre subordonnés ont été condamnés à la place de ce chef.
Condamnés à quoi ?
Par exemple, le responsable de la sécurité a été condamné à 7 ans de prison. D'autres ont été condamnés à 2 ans de prison à la place du responsable de la mine.
Et il est où maintenant, lui ?
Ouais, on l'a démis de sa fonction de chef de mine et puis il a été nommé ailleurs.
Ça, c'est toi qui donnes cette version avec ce détournement par ce chef. Mais est-ce que c'est la version officielle ?
D'autres, il y en a d'autres qui savent, mais la plupart des gens ne veulent pas parler, n'en parlent pas.
C'est un secret.
Si je te connaissais pas, je te raconterais pas cette histoire. Si t'étais pas venu avec Luc, je t'aurais pas raconté cette histoire.
Ceux qui ont un peu de bouteille voient les images sur ce genre de chant révolutionnaire chinois, ces fières chinoises et ces fiers chinois accompagnant le président Mao Tse-tung devant des soleils couchants, des oiseaux qui s'envolent, fiers et fières ouvriers, ouvrières et paysans allant vers les lendemains qui chantent et les avenirs radieux. C'est un peu de cette nostalgie qui flotte dans le regard et les yeux quelque peu humides de notre ami le mineur déclassé.
Toi, tu as 45 ans ?
44 ans.
44. Est-ce que tu penses que c'était mieux du temps du président Mao ?
Oui, je pense que c'était mieux.
Tu regrettes ?
Ah. Ouais,
oui,
ouais.
Mais tu regrettes aussi ta jeunesse.
Josh.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais.
Il rigole pas, là. Ouais.
Et à l'époque, pour vous, le président Mao, c'était tout.
Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus dure qu'avant.
Pour les ouvriers, pour les mineurs,
toute la Chine, le peuple chinois.
C'est-à-dire que, oui, dans ta jeunesse, quand tu étais gamin, être un mineur, c'était être un héros.
Mmh.
Oui.
C'est,
ouais,
c'est ça,
ça. C'est ça. Tant qu'on a pu, dans la période, être un mineur.
Être mineur à l'époque, c'était mieux qu'être paysan.
Pas trop. Dans la période, le pays est plus loin.
À l'époque, les mineurs gagnaient pas beaucoup d'argent. Le pays était très pauvre. Ils avaient de quoi manger, ça suffisait.
Mmh. Et alors, qu'est-ce qui te rend si triste là ? Parce que t'es en larmes là. On est quand même. C'est une situation extraordinaire. On est au milieu de cette mine. On a cru en arrivant que c'était une mine abandonnée, une immense mine abandonnée, tellement c'est en ruine, tellement c'est déglingué de partout, tellement il y a de poussière, de poussier, de crasse et tout, et pas du tout. En fait, cette mine est toujours en activité. Ici, il y a des milliers de mineurs qui sont à l'œuvre dans ce tas de poussière, de tas de on dirait que c'est un truc en ruine. Et là, on est dans cette baraque entièrement fermée, humide, avec du salpêtre partout, avec cet homme solitaire qui est en larmes parce qu'il regrette sa jeunesse, il regrette le temps de Mao Tse-Tung, une époque où le pays était beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a regretté alors ?
Je déteste la société d'aujourd'hui. Tous les officiels se serrent les coudes, se protègent entre eux.
Vous avez un sentiment d'abandon.
Donc aujourd'hui, si tu as des moyens, tu te débrouilles pour survivre. Si tu n'as pas des moyens, tu meurs de faim. Personne ne s'occupe de toi.
L'antre du mineur, mais on n'oubliera pas les posters quand même qui décorent sa petite maison avec des bergers allemands, parce que c'est un fan des bergers allemands. Alors, il y a des posters qui représentent toutes sortes de bergers allemands, et il aime aussi les femmes, les pin-up. Et voilà, il y a tout un tas de posters de pin-up tout à fait friolantes, évidemment pas du tout chinoises. C'est des grandes blondes élancées au bord de la mer qui font rêver.
Son petit potager là. Son petit potager, dans une terre noire.
Merci à Xia Shen, notre ami mineur. Merci aux mineurs de Renan et aux paysans aussi. Notre traductrice est Yang Yang et notre traducteur c'est Luc Richard. La Chine sera-t-elle notre cauchemar ? Bouquin de Philippe Cohen et justement Luc Richard. Aux éditions Mille et une Nuits, 5 ans en Chine de Pierre Aski. Aux arènes, Goodbye Mao, Voyage au centre de la Chine de Frédéric Bobin, etc. Beaucoup de bouquins, vous vous en doutez bien, sur cette énormité qu'est ce pays. Nous vous signalons également que le numéro 32 de quoi ? Eh bien, du journal Fakir est disponible. Ça n'a rien à voir avec la Chine, puisque ça se passe à Amiens et que c'est le journal de notre
Ruffin, notre François Ruffin. Autre part, autre chose, d'autre part, nous préparons un reportage sur la crise du logement. Vous êtes un agent immobilier, ou vous l'avez été, vous avez soufflé dans la bulle spéculative, à contre-cœur. Votre expérience nous intéresse, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de la bas si j'y suis, avec vos coordonnées, et Olivia Gesbert vous écoutera et vous rappellera très probablement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission ou bien sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Michel Bertin et Alain Gadan, c'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, qui a été montée par Raphaël Moutarde, assistante Charlotte Perry, et Christophe Humbert se tient tout près du répondeur à l'écoute de vos messages d'ici à demain au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et je vous rappelle l'email de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. daniel.mermet@radiofrance.com. Voilà, demain on continue le voyage en Chine. Demain, on va retrouver les dernières machines à vapeur, locomotives à vapeur de la Chine. Il est 16h sur France Inter. À demain, 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.